Et la lecture, c'est aussi une forme de résistance.
Les écrivains ne m'intéressent que les gens qui ont un style. Sinon pas style, ils ne m'intéressent pas.
Je me suis contenté de faire un petit rond, un cercle, une petite mèche pour donner un accent. Comme ça, j'étais certain que ce personnage, on le reconnaîtrait de dessin en dessin et de semaine en semaine.
Les histoires, il y en a plein à la rue. Plein les commissariats, plein les correctionnels, plein votre vie. Tout le monde a une histoire.
Les livres nous transforment. Je suis ce que les livres m'ont fait. Oui.
Faut jamais oublier qu'il y a un endroit de littérature où seul le style, seuls les mots comptent, c'est la poésie.
On voit à travers l'écriture. Je ne sais pas ce que c'est un livre, personne ne le sait. Mais je sais quand il y en a un, quand il n'y en a pas un.
Eh bien le bonjour, bienvenue dans cette 38e émission de Par le bout de la lorgnette. Alors une émission particulière aujourd'hui. Salut Héloïse.
Salut.
Comment ça va Héloïse?
Ça va, je suis un peu malade, mais ça donne un côté mystérieux à ma voix, ça va bien.
C'est pas mal. Salut Valérie.
Oh, salut.
Salut Pauline.
Salut tout le monde.
Qu'est-ce que j'entends? Il est de retour?
C'est moi, Nico.
Il est de retour? Nicolas est de retour. Alléluia.
Bon, vous m'avez manqué, hein?
Mais toi aussi, tu m'as manqué.
Eh oui, mais bon, des fois on peut pas.
Et ouais. C'est comme ça. Mais tu reviens pour une superbe émission, Nico, qui va traiter d'un combat, Héloïse. Quel combat?
Oui, un combat entre deux grandes figures mythiques de la littérature policière. J'ai nommé Sherlock Holmes et Arsène Lupin. Voilà, donc j'imagine que vous les connaissez tous. C'est vraiment des personnages très populaires de la littérature et qui me tiennent à moi particulièrement à cœur. Donc je suis très contente de faire cette émission.
C'est bien, mais c'est toi qui choisis les thèmes de toute façon. Donc...
Oui, mais des fois, je choisis un peu pour vous.
Je suis super content qu'on ait choisi ce thème, Vas-y, on te laisse faire une petite intro.
Donc après, voilà, donc je vais vous parler brièvement de Sherlock Holmes et d'Arsène Lupin pour les présenter pour ceux qui ne connaîtraient pas, voilà, on ne sait jamais. Donc Sherlock Holmes, c'est un détective privé anglais qui vit à l'époque victorienne. Il a été créé et écrit par Sir Arthur Conan Doyle en 1887. Et il apparaît dans 56 nouvelles et 4 romans. Voilà. Il s'agit du personnage de fiction le plus repris au monde, que ce soit au niveau écrit, au niveau cinématographique, au niveau télé, etc.
T'es sûr de ça, de cette donnée-là? Tu l'as vérifié sur Wikipédia,
oui.
C'est ça?
J'ai le Guinness Book des records chez moi, je peux te dire.
C'était entre lui et Rocky. Ça se joue pas grand-chose, mais...
Rocky, c'est un roman?
Bon, j'imagine.
Oh, Rocky. Rock, c'est Rocky.
Non, Rocky. Non, mais. Ah non, c'est un scénario de Stallone, oui.
Non, je suis pas sûre que ce soit un personnage de roman à la base. Ouais.
Tu as raison.
Donc, par exemple, en 1990, il avait déjà été repris dans 200 adaptations sur le grand écran. On parle même pas de télévision, on parle de cinéma, donc c'est assez énorme, quoi. Et avec son célèbre acolyte, le docteur Watson, voilà. En ce qui concerne Arsène Lupin, donc c'est un voleur français. Créé par Maurice Leblanc en 1905. Il est le plus souvent appelé le gentleman cambrioleur. Il apparaît, lui, dans 17 romans, 3 nouvelles et 5 pièces de théâtre. C'est moins que Sherlock Holmes, c'est d'une moindre mesure, mais quand même, il a été pastiché et repris de nombreuses fois également. Et on va en parler, notamment dans cette émission. Donc, ce sont deux hommes très intéressants et assez complexes dans leur caractère. Pour caricaturer, c'est par exemple Sherlock Holmes, voilà, il enquête, il résout des crimes. C'est donc le gentil de l'histoire, a priori. Seulement, voilà, il est acariâtre, il est arrogant, il est drogué. Enfin, c'est un peu un anti-héros aussi, misogyne, exactement. Ouais. Et après, au contraire, Arsène Lupin, bon, il vole, donc forcément, c'est un méchant. Et finalement, il a de très bonnes manières, c'est un gentleman, il a une conversation exquise. Une grande culture, enfin voilà, et c'est ce qui apporte beaucoup d'humour aussi dans les textes de Conan Doyle et de Maurice Leblanc, c'est ces contrastes-là et ces traits d'esprit-là, donc c'est vraiment chouette à lire. Et là, on va parler plutôt des parodies, des reprises, etc. Mais si vous n'avez pas encore lu les textes de Doyle et de Leblanc, il ne faut pas non plus hésiter une seconde parce que c'est très facile et c'est très, très intéressant. Voilà.
Merci Héloïse. Alors quel est le point commun, vous qui avez préparé cette émission, entre ces deux personnages de littérature, Valérie Trémolière?
Oui, bonjour.
Alors ce sont deux personnages...
Je la trouve très Molière ce matin.
Oui,
ouais,
très.
Très Molière. Ce sont deux personnages qui ont totalement échappé à leurs auteurs.
Oui.
Il y a de ces personnages dans la littérature qui échappent à leurs auteurs, qui prennent une ampleur.
Comme qui, par exemple
mais comme Sherlock Holmes, par exemple, ou Arsène
Lupin.
Arsène
Lupin, mais à part eux.
Ou Arsène Lupin. alors attends, laisse-moi 3-4 minutes de réflexion.
Frankenstein.
Dracula.
Dracula, ouais.
Voilà. Mmh. Qui ont été repris, postichés dans énormément de livres, de séries télé. Et on se demande même à certains moments si ces personnages ont vraiment existé ou pas, tellement ils ont été repris.
Oui, c'est ça, oui. On va se poser la question plusieurs fois dans l'émission, je pense. Ouais. Et moi aussi, je vais parler de cet état de fait.
Mmh. Au-delà de ça, il y a aujourd'hui une reprise par plein d'auteurs. Et puis aussi, un transfert dans le temps. C'est-à-dire qu'on les met à toutes les sauces.
Mais oui, c'est
au fantastique, alors que c'était pas le.
Ça a tellement été repris que pour trouver de nouvelles histoires.
Ouais. C'est vrai que dans ce que j'ai lu, moi, c'est vraiment ça. Hein. On va même traiter de phénomènes récents dans le monde du fantastique avec l'esprit zombie, par exemple, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses sur les zombies aujourd'hui. Mm-hmm. Mais là, on va le retrouver avec.
Mais raconte-nous!
Non, c'est moi qui donne la parole.
Pas moi le patron.
Mais par contre, il me tend la perche parce que Nico est habitué des histoires de zombies. On l'a vu dans ses émissions. Alors justement, Pauline, que t'as proposé Louise, Sherlock Holmes face à la Shoah, le suicide d'Arsène Lupin, qu'est-ce que tu vas nous présenter aujourd'hui?
Le génocide
de Sherlock Holmes.
C'est pas gentil, mais c'est pas si terrible. moi, j'ai eu deux BD. J'ai eu deux BD sur seulement Arsène Lupin. J'ai rien lu pour Sherlock.
Moi, j'ai eu que du Sherlock. J'ai pas eu de l'Arsène Lupin.
Bah ouais, mais moi, ça tombait bien parce que franchement, Arsène Lupin, j'avais jamais lu.
Ah bon ?
Ni vu de film.
T'avais pas vu les séries à l'époque d'Arsène Lupin ?
Rien.
Mais qu'as-tu appris à l'école ?
Mais je sais pas bien.
L'aiguille creuse, même pas.
Rien de rien. Donc moi, c'était pour le coup une découverte totale. Donc cette BD, c'est Arsène Lupin, Les Origines. Donc j'ai lu les deux premiers tomes. A priori, ce serait une série en trois tomes. Il me semble que le troisième est sorti récemment. Je suis pas sûre de ce que je dis, mais.
Mais c'est Tom ou c'est Arsène ?
C'est Arsène.
C'est pas Tom Lupin, je veux dire.
Non.
Ah, tes blagues nous ont manqué.
Oui, c'est vrai.
J'étais plus préparée là.
Et ça coupe vachement l'émission, hein, d'Arnaud Nico. Hein.
Oh, et puis il faut rattraper le fil. Heureusement, j'ai pas commencé.
Moi, j'ai mis qu'un cri de marmotte la dernière fois, je me suis fait pourrir. En disant, tu coupes notre monochronique, on est connés.
C'était pas un cri, c'était un sifflement de marmotte, hein, s'il
Exactement.
Te plaît.
Exactement.
Donc voilà, donc la BD commence, on rencontre un journaliste, il enquête sur une maison de redressement qui s'appelle la Haute-Boulogne, et puis bon, on rentre dans la maison de redressement, et puis il semblerait que ce soit au-delà de juste une maison de redressement pour ados, mais plus carrément un camp de travail, le limite du bagne. Et en fait, c'est le comte Perceval de Lamarche qui a demandé cette enquête parce que plusieurs jeunes de ce centre ont disparu. Alors, on dit qu'ils ont été noyés en partant en mission en haute mer, mais finalement, après autopsie, ils ne se seraient pas vraiment noyés. Bref, il y a quelque chose de louche. Et donc, dans ce camp, on va dire, hein, parmi les pensionnaires, on a le jeune Arsène, donc lui qui est là, pour seulement avoir été témoin du meurtre de son professeur de savate. Qui s'appelle Théophraste Lupin.
Qu'est-ce que la savate ?
C'est un genre de lutte,
c'est
me semble.
Non, c'est de la boxe française.
De boxe, pardon.
C'est boxe pied-main.
Pardon.
Merci. Avec des, savate, avec des savate, superbes combinaisons moulantes. Pardon.
Oui.
On te laisse rêver.
Mougère, t'arrêtes de
fantasmer. J'essaie de me réveiller, là.
Ouais. Enfin, c'est pas super sexy, quand même, ces combinaisons.
On a pas dit très molière, pas très moulière, très molière.
Oui, mais pourquoi ?
Laissez Pauline, s'il vous plaît, sinon je coupe les micros.
Donc voilà, donc on a ce jeune Arsène qui se fait un ami, Jacob. Ensemble, ils prévoient de s'enfuir. Finalement, leur évasion rate. Mais contre un peu toute attente, on ne sait au départ pas bien d'où ça vient, mais le comte de Lamarche va demander la libération d'Arsène, l'obtenir et va finir par l'adopter. On découvrira plus tard qu'en fait, le petit Arsène a les yeux verrons comme son défunt fils et que voilà, ça a créé un lien entre le comte de Lamarche. Donc c'est comme ça que le jeune Arsène va devenir le gentleman qu'on connaît, c'est-à-dire il va lui apprendre donc ses manières, hein, les bonnes manières de l'aristocratie, il va lui aussi lui apprendre l'art du combat. Et il va aussi lui transmettre son combat personnel, celui de la confrérie des justes. Donc cette confrérie lutte contre une mystérieuse organisation, la confrérie, ce côté-là des Lombards, qui gouverne le monde mystérieusement à travers le crime, à travers l'argent. Bref, tout ça, ça reste un peu mystérieux dans le départ. Je vous en dirai pas plus pour pas gâcher la BD. Donc voilà, il lui dit « Je veux que voilà, tu rentres avec moi là-dedans ». Et en parallèle, il l'envoie en Suisse, dans un pensionnat, le pensionnat de la Croix de Vals, pour terminer son éducation.
Allez, sors ta blague, Valérie, sur Vals.
J'ai rien dit, ouais. Chacun sa croix. Ouais.
Donc voilà, là-bas, dans ce pensionnat, Arsène va se faire des copains. Et il va aussi rencontrer un professeur, un homme très célèbre, Gabriel de Saint-Mérande, qui est un célèbre aventurier, quelqu'un de très cultivé, qui va devenir son enseignant et qui lui aussi a quelque chose d'un peu mystérieux. Bref, donc dans le premier tome, on pose la base un peu de toute l'intrigue, on met en place l'histoire. Et j'imagine que du coup, le dénouement, ce sera comment on arrive à la naissance de Arsène Lupin, le cambrioleur que tout le monde connaît. Alors, je ne sais pas si les adeptes d'Arsène, ils seront... Ça leur plaira, parce que d'après mes recherches, j'ai vu qu'il y a eu pas mal de... J'ai cherché dans les biographies qui ont été faites sur Arsène Lupin. Je n'ai pas trouvé de traces de ces deux confréries. Je ne sais pas si quelqu'un peut me confirmer. Enfin...
Joker et
non,
Louise.
Non, en fait, c'est une œuvre de totale fiction, c'est-à-dire que le Arsène Lupin qu'on connaît de Maurice Leblanc, on connaît tout à fait ses parents, il n'est pas du tout orphelin. Enfin, c'est.
Ouais.
Voilà, c'est quelque chose, c'est vraiment une jeunesse inventée d'Arsène voilà. Lupin.
Donc, c'est ce qui me semblait, c'est que ça n'a rien à voir avec ce qu'on a l'air de connaître, mais bon. Après, a priori, c'est voulu dans cette BD, mais du coup, les grands adeptes d'Arsène Lupin, peut-être qu'ils seront un peu déçus.
Quand tu nous as dit j'ai eu deux BD sur Arsène Lupin, en fait, c'est les deux tomes là que tu
nous
présentes.
Ouais, tome 1 et 2, ouais.
D'accord, les... après, tu présentes plus rien, du coup.
Après, j'arrête.
D'accord, très bien. Non, c'était pour savoir. toi qui connaissais pas Arsène Lupin, ça t'a donné envie de le connaître
hein. Moi, tout l'inverse, moi, ça m'a vachement plu, cette BD. J'ai trouvé ça génial. Alors, au début, je vais être honnête, les dessins ils m'ont pas trop plu. Je trouvais que c'était un peu, c'est très brut, c'est je sais pas, charbonneux. Il y a une ambiance un peu sombre. Voilà, on en presque, ça manquait de finesse. Et finalement, ça sert complètement l'histoire. Ça va tellement bien avec l'histoire que finalement, on finit par apprécier les dessins et rentrer dans l'histoire grâce aux dessins. Donc même si au départ vous êtes pas fan. Passer au-dessus, ça va servir la BD, quoi.
Trempe dans Valérie Nico. Vas-y, le bout de pain.
Et pour le coup, le scénario, alors là, c'est d'une vivacité, ça avance, il se passe plein de choses. Historiquement, ça semble vraiment
plausible.
Ouais. Et du coup, voilà, il y a plein de choses qui se passent, même au point de se dire, bon, un petit bémol, je me demande franchement comment ils vont réussir à finir en un tome, parce qu'ils ont ouvert plein d'intrigues, ils ont ouvert plein de choses, et on a envie que tout se termine. Alors je me dis, en un tome, j'ai hâte de voir ça. Mais vraiment, pour moi, génial. Une vraie réussite.
Il n'est pas sorti encore, le dernier tome ou c'est...
Si, il est sorti il n'y a pas longtemps, il me semble.
D'accord.
Voilà, mais moi je conseille pour la BD en elle-même. Après, pour les fans d'Arsène Lupin, je ne saurais pas me prononcer.
Après, tu vois, pour les fans d'Arsène Lupin, dont je fais partie, moi, j'ai adoré aussi. J'ai adoré qu'il y ait plein de digressions et finalement que le personnage continue à vivre et continue à avoir de nouvelles histoires à son actif. C'est hyper agréable quand on aime un personnage de le retrouver de plein de manières différentes. Et je pense que... Enfin, moi, j'ai vraiment apprécié, même si j'apprécie beaucoup l'œuvre de Maurice Leblanc, par ailleurs.
Oui, donc toi, tu confirmes aussi que même pour un fan, il n'y a pas de...
Enfin,
pas
pour
de...
moi, personnellement, en tout cas, ouais.
Oui. Parce que c'est né quand, dans les années 1960, l'histoire d'Arsène Lupin, c'est ça
Non, Maurice Leblanc, le premier, c'est 1905.
1905, ah oui.
Oui,
parce qu'il y a plusieurs personnages qui ont interprété ça. Enfin, dans la série télé, on connaît Georges Descrières.
Oui, il y a la série, il y a les films aussi.
Dans Zitron.
Il y a eu un film en 2004, non, sur Arsène Lupin, il me semble.
Sherlock Holmes est revenu en tête du box-office américain.
Mais quand on regarde
avec,
bien, il y a tout le temps des références, effectivement.
Evan McGregor, je crois.
Oui, même dans les personnages d'aujourd'hui qui sortent, c'est souvent des références.
La Ligue des Gentlemen Extraordinaires aussi, ce film Arsène Lupin.
Jude Law, pas McGregor.
Par exemple.
Et oui, c'est le danger justement de ressortir des livres avec des personnages extrêmement connus. On peut souvent, et des histoires extrêmement connues aussi, on peut souvent se planter. On verra dans cette émission si c'est le cas ou pas. Qui tient...
Oui, du coup, on n'a pas précisé la maison d'édition ni les auteurs.
Ni les auteurs, ouais. Benoît Aptet. Et Pierre, c'est que des trucs de, imprononçables. Deschaux pour le scénario, c'est vrai, pardon. Et pour le dessin et les couleurs, Christophe Gauthier et Marie Galopin.
Et le titre, c'est exact, c'est...
Arsène Lupin, Les origines pour le titre. Et sinon, c'est Les disparus et le tome 2, Le dernier des Romains.
D'accord, et c'est chez Rue de Sèvres.
Voilà, et franchement, je recommande, génial, c'est hyper
et
vif.
Et à partir de quel âge, tu dirais?
Pour les adultes ou de grands ados, je dirais pas enfants, pas c'est trop. Je
15 pense... ans quoi.
Ouais, 15-16 ans. Oui, ouais. Je pense que ça peut commencer 14 ans. Ça me paraît déjà peut-être un peu jeune. C'est pas évident.
Souvent, parce que la savate c'est violent.
Ouais.
Ouais. Mais c'est du sport. Le pendant de Pauline,
Sherlock Holmes.
C'est Nico qui a eu un deux Dr. BD Watson. De Sherlock Holmes. Comme ça, on va pouvoir faire un peu
le match
entre les deux.
Le match. Qu'est-ce qui vous plaira le plus? Est-ce que c'est donc Arsène Lupin versus Sherlock Holmes?
Voilà, exactement. Donc toi, t'as eu deux BD. Est-ce que déjà, ouais. Avant de commencer, ce sont deux BD qui sont en lien ou pas du tout? C'est un tome 1, un tome 2
non,
ou
du non tout. Du tout. Ah. C'est deux BD de deux... pas de deux collections différentes, parce que c'est la même maison d'édition, mais...
D'auteurs différents.
C'est deux séries différentes.
C'est deux séries voilà, différentes. Je cherchais le D'accord. mot. C'est vraiment deux séries. Série assez fantastique, je dois le dire, où on ne retrouve pas le Sherlock Holmes qu'on a pu connaître là aussi, par le passé, hein, avec les histoires. On retrouve... alors, dans la première, donc c'est Sherlock Holmes et les voyageurs du temps. Moi, j'ai eu la chance de lire le tome 1 que j'ai trouvé vraiment passionnant. Je suis pas trop sur ces BD-là, un peu historiques, avec des personnages comme ça. J'aime pas trop ça. À la base, hein, c'est-à-dire que je l'aurais pas acheté pour moi, j'aurais pas lu. Là, le fait que je sois obligé de le lire parce que j'ai pas choisi, faut le dire. En fait, je suis rentré dedans, ça m'a vraiment plu et j'ai vraiment envie de voir la suite. C'est bête, voilà, mais c'est
on
comme
va,
ça.
On va préciser qu'Héloïse met les livres à disposition. Donc Pauline est toujours la première, c'est pour ça qu'elle a toujours que des BD. Et Nico arrive à la fin, donc il a aussi des BD. Voilà. Voilà. Parce qu'avec Valérie, nous, on prend les gros romans. Parce que...
En fait, alors, ce qu'il faut dire, c'est que c'est Sylvain Cordurier qui fait les scénarios de ces différents tomes. Sylvain Cordurier, c'est un homme de la BD depuis pas mal d'années, assez jeune, mais qui était plutôt sur le monde fantastique. Donc il avait fait comme bouquin, alors que je retrouve mes notes.
Star Trek.
Non. Il a écrit par exemple Salem la Noire. C'est des BD qui sont un peu connus. Android, voilà. Donc on est plus dans le fantastique et dans la SF. One aussi, qui est assez connu en BD, jeune, voilà. Et Ravermoon. Voilà. Donc série fantastique, on retrouve des personnages et à chaque fois il travaille avec un illustrateur différent. Donc là sur les deux BD, ce sont deux illustrateurs différents. Le premier donc sur les voyageurs du temps, c'est Lassie. Voilà.
Ah mais
pas,
c'est,
et pas
c'est
le lui... chien. Hein, le...
C'est lui qui a écrit les deux BD.
C'est lui qui a écrit les deux BD.
Et
mais
c'est deux illustrateurs différents.
Ce sont deux illustrateurs différents.
Oui, j'ai compris, merci Valérie.
Toujours dans
et deux séries différentes.
C'est ça.
C'est étrange.
Ça n'a pas de lien entre les deux.
C'est bizarre ça.
Toujours aux éditions du Soleil Productions. D'accord. Dans le premier, ce qui est intéressant, donc c'est, on part à chaque fois d'un constat. C'est-à-dire, voilà, ce personnage, Sherlock Holmes, il sort en fait d'un combat contre James Moriarty, qu'on connaît, et Taher Emara. Et Sherlock Holmes, si tu veux, qui a été très, très esquinté lors de ces combats, décide d'arrêter ses enquêtes et de devenir libraire. Et donc, on le retrouve dans une librairie où il est libraire pendant plusieurs années. Voilà. Il embrasse donc cette fonction et ce métier pendant plusieurs années. Et puis, en fait, on vient le chercher parce qu'on le sort de cette quiétude. Parce qu'en fait, il y a un événement particulier qui se passe et la reine d'Angleterre va le sortir de là en lui disant, bon... tu as été écarté un petit peu des affaires, tout ça, mais j'ai besoin d'un super limier pour retrouver un personnage qui a disparu, qui est un grand chercheur et qui, ce savant mystérieux, donc, qui constituerait en fait une menace pour la sécurité publique. Bon, je vous en dis pas plus. Donc, il y a des personnages un peu fantastiques avec un peu de super pouvoir. On est dans un monde étrange, un peu à la Frankenstein aussi, où il y a des expérimentations, etc. Des expériences qui sont faites sur des gens. Et en même temps, sur une vision du monde où il y aurait en secret, en fait, des forces occultes qui agiraient pour... Et qu'en surface, il y aurait des hommes politiques et des gens qui seraient là pour essayer de camoufler tout ça à chaque fois, de rendre secret. Alors, on est un peu... En lisant ça, je me dis, on est complètement dans la théorie du complot. Ça a fait un peu flipper en se disant, ouais, on retrouve tout ça, quoi. En même temps, ils s'en amusent pas mal. D'ailleurs, c'est pas drôle, mais en même temps, c'est tellement gros qu'on peut pas y croire. Mais on se laisse quand même porter par cette histoire.
Après, ce qui est intéressant dans ce postulat-là, c'est que tu dis que c'est clairement assumé fantastique, alors que dans le Sherlock Holmes classique, on va dire, il y a toujours une base de fantastique, mais Sherlock Holmes, il est très, très droit, etc., il n'y croit pas.
Très pragmatique.
Et il finit toujours par dire, non, en fait, c'était pas un fantôme, c'était ça, etc. Et ça finit toujours par retomber dans la réalité. Mais là, c'est pas le cas.
Alors, c'est un peu le cas parce que dans la description qui est faite dans la première partie de l'ouvrage, c'est de dire Sherlock Holmes a disparu pendant plusieurs années. Réapparaît et Dr. Watson, son ami, en fait, ils se sont pas revus entre temps. Et donc, on ne sait pas ce qu'il est devenu, en fait. Et il le dit à personne. Il n'en parle même pas à son meilleur ami. Et du coup, on se dit, mais qu'est-ce qu'il est devenu ? Et finalement, lui, qui était très pragmatique, très logique, puisque c'est un logisticien, c'est quelqu'un qui est que sur la raison, et etc., et qui ne croit pas à tous ces phénomènes surnaturels. Et là, finalement, on se rend compte qu'en aparté, comme une voix off qui raconte, on découvre qu'en fait, maintenant, il y croit, et c'est lié à sa dernière histoire, dont on ne parle pas. Mais on se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé ?
Pendant qu'il avait disparu
dans cette guerre avec Moriarty, il s'est passé un autre phénomène, c'est que là, on le découvre donc au chevet d'une jeune femme, avec qui il a une relation télépathique. Voilà. Et on découvre ce pouvoir qu'il pourrait avoir et cette relation très tenue avec cette femme où il n'y a pas de relation amoureuse, mais c'est très. Voilà. C'est un peu ambivalent.
Mais c'est pas trop par rapport au personnage de base de Sherlock Holmes ?
Enfin, moi, dans le personnage de Sherlock Holmes, je le voyais comme un personnage très intellectuel, très riche humainement, très logique. Mais qui construisait une pensée, etc. Là, je le trouve un peu space, ouais, un peu fantastique, et je me pose la question de sa crédibilité. Mais la façon dont c'est écrit, les textes sont vraiment bien, bien écrits, quoi. Et il amène très, très bien au dénouement. Mais les dessins sont vraiment beaux. Donc, on est vraiment bien, bien plongé dans l'histoire. Voilà. Mmh. Donc, je vous raconterai pas l'histoire, mais les dessins, on s'y retrouve vraiment bien. Les personnages sont bien dessinés. On est vraiment dans des intrigues. Voilà.
Vu que c'est le même auteur, j'ai une question. Est-ce que le Sherlock Holmes des deux romans a les mêmes caractéristiques, vu que c'est le même auteur, est-ce qu'il le présente pareillement ou il y a des différences notables dans les traits de caractère, par exemple, ou autre ?
Non, il est vraiment... c'est vraiment le même. Ouais.
C'est le même.
Ouais, c'est le même. Et la relation qu'il a avec, notamment Watson, elle est un peu ambiguë aussi. Quoi, voilà. On retrouve à chaque fois ce décalage et cette disparition qu'on n'explique toujours pas. Alors, dans l'autre qui s'appelle Sherlock Holmes Society, voilà, avec le premier opus qui est l'affaire Killodge. Alors là, on est... alors, c'est marrant parce que dans Sherlock Holmes et les Voyageurs du Temps, en fait... Il a créé cette série qui continue. D'accord ? Donc, on est au tome 1, il va faire le tome 2, tome 3, tout ça. Et pour l'instant, il continue. En parallèle de ça, il crée une nouvelle série qui s'appelle Sherlock Holmes Society, qui démarre en 2015. Et il en est sur plusieurs tomes déjà. Donc, on est sur des histoires en parallèle avec le même personnage, mais dans des séries très, très différentes. Et là, on est aussi tourné vers le... Pas le fantastique, mais un peu plus vers le macabre. Donc, c'est vraiment Sherlock Holmes et les zombies, quoi. Donc, en fait, il est appelé par la reine d'Angleterre aussi,
encore
pour aller démêler une affaire qui s'apparente un peu au film, à l'histoire du film Virus. Vous savez, où une petite ville au Tennessee ou je ne sais pas où, dans une province américaine.
Quelque chose en nous de Tennessee.
Et du coup, il découvre qu'en fait, dans ce village, tous les gens sont atteints d'une maladie par un virus. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment. Et en fait, c'est tous des zombies, quoi. Voilà. Donc, c'est
je veux dire,
c'est très tendance. J'ai trouvé ça très tendance. cette intendance, mais en même temps, ça fonctionne très bien.
C'est ce que j'allais te dire, Nico. Bah, c'est vrai que la tendance actuelle, c'est les super-héros. Et on l'a vu dans le cinéma hollywoodien dernièrement, qui a repris ce personnage de Sherlock Holmes, qui n'a pas de super-pouvoir, mais qui est extrêmement rapide, qui est extrêmement intelligent, plus que la moyenne, etc. Les virus, les zombies, c'est également mis au goût du jour, alors, dans le cinéma, dans les bandes dessinées, dans les séries, etc. L'auteur tombe pas dans la facilité un peu de reprendre toutes ces clés de lecture, de mettre un super-héros, des zombies, c'est pas un peu trop...
Je pense que c'est... Si, derrière, je pense qu'il y a une tentative de
se faire de l'argent.
Bah après, de si on y prend du plaisir, tu vois, parce que les films de super-héros, effectivement, bon, c'est un peu...
De donner un coup de jeunesse, peut-être.
Si on y prend plaisir, je pense qu'il y a pas de soucis. Ah, tu le vois comme ça, toi.
Ouais. Ouais, non, mais je pense surtout que, si tu veux, par rapport à ça, c'est un personnage qui est assez ancien. Et c'est vrai que peut-être pour la jeune génération, Sherlock Holmes, ça fait un peu vieillot, tu vois. Et de le rafraîchir sur une histoire de zombies, peut-être que c'est une stratégie.
Je suis trop vieux, ça me fait pas rêver.
Dit comme ça, on est tous trop vieux.
J'adore les zombies, mais je sais pas, là, ça me...
Oui, ouais, mais peut-être que pour les jeunes, ça leur fait découvrir Sherlock, quoi, tu vois. Ouais. Et après, t'as peut-être envie d'aller voir les autres séries et d'être sur...
Oui, parce qu'après, ils vont pas lire le roman de Conan Doyle, hein. Ils vont passer direct à Walking Dead.
C'est quand même très facile de lire le...
Et pourtant, c'est très facile, ouais.
Sherlock Holmes.
Puis c'est chouette, c'est intemporel.
C'est court, enfin, oui...
Ok.
Mais l'intrigue est toujours très très bien menée. Donc Sylvain Cordurier, voilà, je recommande. Mais dans ses autres œuvres aussi. Alors je me rappelais plus de lui, mais moi j'avais lu des androïdes et des choses comme ça et j'ai trouvé ça très bien.
Merci.
Je me dépêche. Ça.
Merci Nico. Ouais, exactement.
Mais moi j'étais pas là les deux derniers.
Avec Pauline, vous prenez une demi-heure de l'émission. Il nous reste une demi-heure pour trois pour des romans.
Sachant que nous, on a tous moins de doutes.
J'ai le droit de parler un peu plus puisque j'étais pas là la fois dernière.
Tu n'avais pas fait de mot d'excuse.
Oui,
c'est vrai.
Allez, rappelle-nous la maison d'édition. S'il te plaît.
Soleil Productions, donc Sherlock Holmes Society, et puis l'autre, donc Sherlock Holmes et les Voyageurs du Temps.
Allez, avant de présenter la suite, un petit jeu qui est en direct sur Facebook, vous y êtes habitué maintenant, vous répondez à la question que je vais publier d'ici à quelques secondes, et vous gagnez une place pour le spectacle d'Hypersensible d'Axel Lafont à gagner pour le 13 octobre prochain au Théâtre de Mende.
Ouais, il faut venir nombreux à Axel Lafont, hein.
Voilà.
C'est génial.
Hein. Et bien là, vous gagnez
essayez
une place.
Essayez de gagner la place.
Voilà. Alors la question, Nico et Pauline ont présenté des romans de 400 pages ou des bandes dessinées parce que ce sont des feignasses. Allez, c'est parti, vous pouvez répondre la première personne qui répond. Tu n'as pas le droit d'aider.
Feignasse ou un feignant.
Tu n'as pas le droit d'aider.
Des feignasses.
Je ne fais pas partie des feignasses.
Allez, c'est parti. Qui c'est qui présente avant la pause musicale? Peut-être Héloïse, parce que ça a un lien. Non, ça n'a pas de lien.
Moi, je présente deux qui ont... par rapport à Sherlock Holmes.
Non, mais en fait, dans cette émission... Alors, Nico a oublié, parce que ça faisait longtemps qu'il n'était pas venu. On présente un livre. Après, c'est à quelqu'un d'autre. Après,
mais oui,
on ne présente pas de livre si tu voulais faire un ordre,
alterner Sherlock, Arsène...
D'habitude, il y a du sens dans les présentations.
Présente un Arsène, alors.
Eh ben, je n'en ai pas.
Très bien, donc Valérie, tu as la parole.
Tu veux un Arsène Lupin? Tu veux en avoir.
J'ai eu un problème de casque, j'entendais plus ce que vous me disiez.
Alors, hop là.
Mais du coup, toi, c'est le manga, c'est ça?
Moi, je peux vous présenter un manga d'Arsène Lupin, ça vous intéresse?
Oui.
Vous le voulez?
Ouais,
c'est vrai?
Ouais.
Mais vous allez l'avoir. D'abord, je vais vous raconter un truc que Pauline m'a dit. Il faut absolument que tu le dises demain à la radio en direct devant les milliers d'auditeurs qui nous écoutent. C'est que j'ai récupéré le manga. Je ne suis pas très très forte en manga. Donc c'était Arsène Lupin. Je connaissais un petit peu Arsène Lupin, les histoires de base, et les originales, j'allais dire. Et donc j'ai commencé à lire mon manga. Je me suis dit, si c'est un manga, il faut que je commence par la fin du livre. Donc j'ai commencé à lire, sauf qu'en fait, quelqu'un avait inversé le livre dans la jaquette. J'ai commencé par le début, mais ça se tenait aussi pendant les 10 premières pages, puisque la fin et le début, c'était pareil. Donc j'ai mis à peu près 10 pages à réaliser que je lisais mon livre à l'envers. Voilà, je l'ai dit devant nos millions.
C'est plus un manga, c'est un gamin.
C'est un gamin. Non, c'est moi qui me suis prise pour une gamine à vouloir lire un manga. Bref, donc je vais vous parler d'Arsène Lupin, donc le premier des 5 tomes de Takashi Morita, qui est un scénariste et dessinateur japonais qui a repris donc les histoires d'Arsène Lupin. Donc l'histoire elle est un peu connue puisque c'est Germaine Gournay-Martin, fille d'un richissime banquier, elle va bientôt épouser le duc de Charmeras, mais Gournay-Martin est victime pour la deuxième fois en 3 ans de vol, peinture, sculpture, tout lui a été dérobé par le gentleman cambrioleur, Arsène Lupin. Donc ce monsieur Gournay-Martin, qui est banquier, a qu'une crainte, c'est qu'Arsène Lupin lui dérobe la dernière chose précieuse qui lui reste, le fameux bijou, le diadème de la princesse Lamballe. Donc on a toujours l'inspecteur Ganimard, qui est un personnage redondant des livres, qui est appelé à la rescousse, qui va venir donc dans le château, puisque ça se passe en huis clos dans le château, sans savoir qu'Arsène Lupin, bien sûr, est là. C'est une réinterprétation moderne d'un Arsène Lupin. C'est réalisé avec énormément de goût. C'est un Japonais qui est fasciné, donc Takashi Morita, par le voleur français Arsène Lupin. Il a décidé donc de redessiner tout, mais sans trahir l'écriture originale. Donc on est bien au début des années 1900 en France, avec toute l'exubérance qu'il y avait dans les familles riches de cette époque. Et Lupin, ben, comme chaque fois, va prévenir sa victime qui va commettre le forfait en avertissant. Et ce qui, je pense, est encore pire pour la victime. Donc il reste malgré tout très, très gentleman avec les femmes, toujours un fin pro du déguisement. Donc là après donc la BD en elle-même, les décors, ils sont très très bien faits, c'est magnifique. Arsène Lupin, par moments, c'est le petit bémol que je trouverais à la BD, c'est qu'il est ultra caricaturé, et il y a vraiment le côté japonais qui ressort, c'est-à-dire que les fois où il s'énerve, où il explose de rire, Arsène Lupin, il a une caricature, enfin il en devient barjot, on a l'impression qu'il devient
c'est
fou.
C'est des mimiques de manga un peu à la Dragon Ball, ouais. C'est-à-dire que toutes les émotions sont un peu caricaturées dans certaines postures.
Voilà, ouais, et c'est on dirait qu'il est complètement fada, enfin qu'il est alors que c'est quelqu'un quand même qui est hyper posé, qui est limite très très classe, très Et là, comme s'il devenait tout fou, en fait, avec la petite goutte de sueur qui peint du front. Là, on voit presque les petits dollars dans ses yeux briller quand il va voler. Enfin, c'est le petit côté qui m'a fait un peu bizarre, outre le fait que ce soit un manga et que ça se lise à l'envers. Mais c'était bien parce que...
Quand en fait, on trouve l'endroit.
Quand on trouve, voilà, c'est ça. Mais à force, j'ai trouvé. Mais d'ailleurs, je l'ai remis à l'envers dans la jaquette. Et c'est vrai que c'était sympa de revenir à Lupin autre que par les romans de Leblanc classiques que moi j'avais eu la chance de pouvoir lire à l'école. Donc c'était bienvenu de rentrer dans la vie d'Arsène Lupin par un manga. Donc je pense que c'est un super travail à proposer à des jeunes, justement parce que c'est facile à lire, parce que c'est sous forme de BD manga. Mais par contre, les dialogues sont c'est très joli. Enfin, le phrasé est joli et donne envie, par contre, de découvrir plus Arsène Lupin.
Oui, parce que du coup, ça a l'air d'être une adaptation très fidèle au roman et
c'est
hommage, en fait, ouais. J'imagine.
Ouais, ouais. Et c'est le on reconnaît le petit côté japonais, soit sur les écritures, soit par exemple sur les là où on reconnaît aussi le côté japonais, c'est les filles. Elles sont très très kawaii, très un peu légère, enfin un peu, mais c'est le côté, voilà, c'est le côté manga, et c'est tout excusable. Donc c'est très sympa, c'est un petit manga, donc c'est assez facile à lire et c'est assez addictif, c'est-à-dire quand on lit le tome 1, on a envie de lire la suite, surtout qu'il a adapté des plus connus. Le tome 2, c'est Arsène Lupin contre Sherlock Holmes. Ouais, sur le la lampe juive. Non, c'est quoi le...
Alors, je ne sais plus.
C'est ça, je crois.
Parce que oui, effectivement, ils se sont réunis dans une nouvelle de Maurice Leblanc oui. Qui s'appelle Arsène Lupin contre Sherlock Holmes. Et du coup, c'est l'adaptation de cette nouvelle en manga. Après, il y a l'aiguille creuse aussi, qui est le plus connu, évidemment.
Que tout le monde a lu à l'école, voilà. Sauf Pauline.
Sauf Pauline, elle n'a pas dû aller à l'école. Et qui est en deux tomes, l'aiguille creuse.
Et donc, oui, en plus, tu dis c'est une série en cinq tomes, donc c'est une petite série, oui. Ça va. On n'en a pas pour
un manga, ouais. En plus.
Non, c'est vraiment bien. Après, il est assez, malgré tout, les dialogues restent assez dans l'actualité. Et il y avait une phrase qu'il dit, justement, quand il prend son visage de fou furieux, c'est « Les riches, ces personnes qui s'engraissent de pognon, si tu savais quelles tronches ils font quand on leur vole ne serait-ce qu'un seul billet, un seul. » Il est tout fou quand il dit ça. Il est trop heureux et c'est là où c'est qu'il redevient un peu sympa, parce que c'est quand même un cambrioleur, donc on est censé ne pas l'aimer. C'est comme tu disais, Héloïse, c'est le méchant. Mais d'un autre côté, il a ce côté « Je vais pas voler à n'importe qui ». Donc c'est ce côté-là qui va lui rendre son capital sympathie.
Et voilà. C'est chez qui, du coup?
Je ne sais pas, parce que Nico vient de me voler le livre.
C'est chez Valérie.
C'était chez moi. Non, je vais le rendre. Il était chez toi. Il était chez moi.
Oui. C'est Kurokawa.
Kurokawa.
Taxi Morito.
Bonjour, Morita. Madame, je voudrais le livre de Kurokawa.
Et en fait, il avait déjà, il est pas à son coup d'essai, il avait pas mal écrit sur Arsène Lupin. Et le problème, c'est qu'en France, ça lui avait causé quelques petits soucis parce que il n'était pas encore.
Les héritiers.
Il n'était pas encore libre de droit. Enfin, je sais pas comment on dit dans le
libre de droit.
C'est
oui,
ça,
c'est
libre
ça.
De droit.
Il faut 100 ans, donc c'est ça, hein, c'est 100 ans, non? 1905-2005, il a dû le sortir en 2004.
Et voilà, et en fait, oui. les ventes au Japon, il était dans une ancienne maison d'édition, les ventes commençaient un peu à s'affaiblir. Et là, cette maison d'édition, elle a senti le vent tourner, elle l'a repris, et c'était une bonne opération. Mais il y a énormément au Japon, Arsène Lupin et Sherlock Holmes sont deux personnages qui sont énormément repris.
Et ça prouve la notoriété de ces personnages, y compris en Asie. Avant de parler de Sherlock Holmes, on va faire une pause musicale en rapport avec ce personnage, Héloïse.
Oui, c'est une chanson qui apparaît dans le film donc Sherlock Holmes avec Robert Downey Jr. et Jude Law. Et c'est aussi un grand chant populaire irlandais qui parle d'un jeune homme qui quitte son village pour aller à pied jusqu'à Dublin et qui s'appelle Rocky Road to Dublin.
Ah, ça va être sympa.
Tu parles bien.
Well, in the merry month of May, now from me home I started, left the girls and two were nearly broken hearted, saluted father dear, kissed me darling mother, drank a pint of beer, me grief and tears to smother, then off to reap the corn and leaf, for I was born, God has dealt with hard to banish ghosts and goblins, a brand new pair of brogues to rot the love of the bogs and frighten all the dogs on the rocky road, to double a 1, 2, 3, 4, 5, hunt to hare and turn her down the rocky road, and all the ways to double a mac for all the dogs, in Mullingar the night I rested them so weary, started by daylight, next morning light and airy, took a drop of the pure to keep me heart and drink, and that's the paddy's cure when there is on for drinking, they hear the lassie smile, laughing all the while, at me curious style to touch a heart above, and they asked me was I hired and wages I required till I was almost tired of the rocky road, to double and 1, 2, 3, 4, 5, hunt a hare and turn her down the rocky road, and all the way to double and make full all the dark, in double and next arrive, I thought it such a pity to be so soon the point of view of that fancy, then I took a stroll all among the quality bundle it bestowal in the neat locality. Something crossed me mind when I looked behind, no bundle could I find upon me stick a warren inquiring after the rogue, said me cunnus brogue, it wasn't much in vogue on the rocky road, to double and 1, 2, 3, 4, 5, hunt the hare and turn them down the rocky road, and all the ways to double and make full aldi da. From there I got away, me spirits never failing, and it under cages as the ship was sailing, captain at me road, set that old room hardy when I jumped aboard a cab and found for paddy, down among the pigs, did some hearty rigs, I paid some hearty jigs, the water round me bubbling when I fully had, I wished myself was dead or better far instead, on the rocky road to double and 1, 2, 3, 4, 5, up there and turn her down the rocky road, and all the ways to double and make full aldi da. The boys of Liverpool when we safely landed, called myself the fool, I could no longer stand it, blood began to boil, Templar I was new as impure out there, they began abusing her army, so well says I, me shillelagh, I let fly, Galway boys were by, and so I was a hobbling with the low hooray, the joy and the affray, quickly clear the way for the rocky road, to double and 1, 2, 3, 4, 5, hunt the hare and turn her down the rocky road, and all the ways to double and back for Aldida.
Elle m'a présenté un livre. Allez,
c'était bien. Hein.
Allez, garez vos chevaux.
Moi, j'aime bien. Je trouve ça entraînant. J'ai envie de te prendre par la main. Et
tu danses super bien la gigue, Héloïse.
Ouais. Non, moi, j'aime bien aussi. Je trouve ça entraînant. C'est sympa.
Bon.
Héloïse, combat entre nous deux sur Sherlock Holmes.
Yep. Alors, ouais, mais après, moi, c'est un livre jeunesse-ado. On n'est pas sur le même créneau, hein, Ludo. Donc,
non, pas du tout. Allez, je te laisse la parole.
Mais je suis quand même très contente de l'avoir lu. Il est très bien. Donc, ça s'appelle « Les aventures de Charlotte Holmes », écrit par Brittany Cavallaro.
Brittany.
Chez Pocket Jeunesse. Donc, c'est l'histoire donc, de Jamie Watson, l'arrière-petit-fils donc, de Watson, du docteur Watson, et de Charlotte Holmes, l'arrière-petite-fille du célèbre détective Sherlock Holmes. Donc, les deux familles, au fil des décennies...
Il n'y a pas de la consanguinité entre eux, hein ?
Non, pourquoi ? Non, ils n'ont aucun lien familial.
C'est comme toi, les enfants de tes meilleurs amis, tu vois.
Ben non.
Il n'a pas d'amis.
Non, non, c'est deux familles totalement différentes. Et au fil des années, en fait, ils entretiennent des liens assez cordiaux, mais ils ne s'entendent pas comme, comme cul et chemise, comme Dr. Watson et Sherlock Holmes.
Aimable et consensuel.
Aimable, ben voilà, je veux dire, ils se rencontrent.
Cul et chemise, en général.
Mais ce n'est pas une vraie expression, non?
Cul et chemise,
si. Si, être cul et chemise.
Ce que ça veut dire, c'est que tu tombes la chemise.
J'entends très très bien.
Et sans pantalon, des fois, on dit. Être cul et chemise et sans pantalon.
On pourrait en faire une chanson, non?
Ça pourrait être pas mal.
Ouais. Faudrait demander à N-Team.
Ah ouais.
Ouais. Ouais, il va vous écrire ça.
Ouais, mais il est en dépression N-Team, il a plus de cachet, il n'arrive plus à passer.
Ah, c'est ça.
Ouais, mais je peux pas en parler là. C'est trop dur.
Donc
moi.
En fait, le jeune Jamie Watson.
C'est N-Team.
Non, allez, parle-nous de Jimmy et de Charlotte.
Le jeune Jamie Watson, depuis qu'il est tout petit, en fait, il entend parler de Charlotte et de la famille Holmes. Il lit les écrits de son arrière-grand-père. Il est fasciné par cette petite fille qui vit dans le nord de l'Angleterre et qui est pas si loin que ça. Et il rêve, en fait, de faire toutes sortes d'aventures avec elle. Mais jamais ils se rencontrent, en fait, jusqu'à ce jour, ce merveilleux jour, où ils sont envoyés tous les deux dans un pensionnat aux États-Unis. J'ai dit une bêtise.
Non.
Valérie fait des gestes obscènes.
Non, c'est pas ça. C'est, tu disais qu'ils ils entretenaient des relations aimables et consensuelles.
Oui, mais en fait,
mais tu disais qu'ils se connaissaient pas.
Les familles.
Jamie et Charlotte, les petits-enfants, en fait.
Okay.
Quand leurs parents, etc., se rencontrent de temps en temps dans des galas de charité, des choses d'accord. comme ça, mais c'est pas des lieux où les enfants sont amenés,
oui.
en fait.
D'accord.
Voilà. Donc, ils se sont jamais rencontrés. Et un jour, ils se rencontrent dans ce fameux pensionnat aux États-Unis. Alors, Jamie est un peu déçu quand il rencontre Charlotte parce qu'effectivement, elle est un peu à l'image de son arrière-grand-père, c'est-à-dire qu'elle se fiche de tout le monde, elle est assez snob, elle est pas du tout sympathique et elle se la pète un peu. Oh
c'est un peu Valérie, quoi.
Voilà.
Oui, tout à fait.
Donc, il est très déçu. Ouais.
C'est ça.
Alors, il faudra, en fait, pour les réunir, un premier crime dans l'école. Et un deuxième, etc. Et c'est des crimes qui font clairement allusion à leurs aïeux. C'est des mises en scène assez absurdes par rapport à leurs aïeux. Ils sont tout de suite mis en cause, ils sont soupçonnés dans ces crimes-là. Et ils vont devoir s'allier, en fait,
pour prouver leur innocence.
Voilà, exactement.
Et donc, j'aime bien ces scénarios.
Dénouer et pour dénouer l'intrigue.
Mais attends, mais Watson, il avait des prédispositions en tant qu'enquêteur.
Alors non, pas
du tout. Parce que les deux, ils ont hérité des...
Watson, il aime bien écrire, etc. Mais il n'a pas eu une éducation spécifique par rapport aux crimes, par rapport aux enquêtes, etc. Contrairement à Charlotte, dont la famille a perpétué la tradition de la logique, du combat, et elle a eu une enfance très difficile parce qu'elle a été entraînée toute sa vie pour devenir comme son arrière-grand-père. Et c'est pas facile de porter un tel poids sur ses épaules. Quoi qu'il en soit, elle est quand même douée pour ce genre de choses. Donc ils s'allient tous les deux. Voilà, j'en dirai pas plus. Donc c'est une chouette adaptation, c'est vraiment très drôle. Il y a une véritable enquête aussi. Enfin, moi, j'ai pas deviné, honnêtement, j'ai pas deviné ce qui se passait à la fin, donc ce qui est quand même pas mal. Il y a aussi les descendants de Moriarty qui pointent le bout de leur nez également.
Ah oui, d'accord.
Et c'est génétique alors, la vilainerie ?
Et pas du tout, en fait.
Oh.
Ah mince.
Mais il faut pas le dire.
Non,
tu mettras.
C'était un piège.
Après, bon, c'est
tu
pas...
la connais, Valérie. Elle cherche toujours à savoir. Elle prêche le faux.
C'est pas le principal. Ils apparaissent un peu, mais c'est pas le sujet principal. Après, c'est pas gnangnan du tout. Au contraire, c'est assez intelligent et on parle de sujets. De sujets comme la drogue, comme le viol aussi, qui sont pas faciles, mais qui sont bien, je pense, à aborder dans des livres pour ados. Donc c'est vraiment aussi une bonne manière de découvrir l'univers de Sherlock Holmes.
Sinon, vous avez Sherlock Holmes contre les vampires pour les ados.
Les zombies.
C'est la suite. C'est,
voilà, Sherlock donc j'ai vraiment.
Alors
j'ai
c'est
vraiment
un petit roman, hein, c'est ça.
Un bon moment.
Ça fait petit, petit nom. Il a quand même.
Il fait 300 pages. Quoi.
Mais grosse police.
À partir de 14-15 ans, je le recommande chaudement. Il n'y a pas besoin de connaître forcément cet univers-là. Les anciens romans, les personnages, on
peut...
Ils
parlent des anciens personnages.
Oui, parce qu'en fait, ils sont tous les deux, Charlotte et Jamie, ils sont tous les deux un peu fans de leur aïeux.
D'accord.
Ils connaissent les bouquins par cœur. Enfin, oui, carrément. Ils ne rejettent pas cet héritage.
Ok,
voilà.
Très bien aussi pour mettre un premier pied pour les ados.
Partir sur. Ben là, on est quand même dans l'idée que Ces personnages, on les retrouve encore aujourd'hui avec ces deux jeunes.
Mais aux États-Unis.
Une continuité, quoi. Avec un nouveau nom. Et
oui,
voilà.
Oui. Et avec une fille et un garçon.
Oui. Ça évolue, ça évolue.
Ah oui, tout à fait. Arthur, pour la théorie du genre, tu parles de ça sur.
Je parle de ça et je parle qu'il y a un petit côté sentimental en plus.
Ouais. Ah bah, il faut bien. Hein.
Arthur doit se retourner dans sa tombe en lisant ça. Oui, il est mort.
Conan.
Allez, à moi.
Le destructeur.
Alors, c'est bien parce que vous avez tous présenté des livres qui sortent un peu de l'ordinaire parce que voilà, on s'est dit comment dépoussiérer ou comment remettre au goût du jour ces deux personnages qui datent du siècle dernier. Et donc là, on a vu différentes facettes. Je vais en apporter encore une nouvelle. D'un excellent livre. Alors voilà, chers auditeurs et auditrices, s'il y a un livre à retenir dans cette émission, c'est celui-ci. Oubliez tout ce que vous avez entendu avec.
Non.
Jean-Marcel R., c'est l'écrivain. Alors, c'est un auteur qui vit à Montpellier, qui est né en 71 à Perpignan, comme toi, Valérie. Oui. Pour la date, je ne parle pas du lieu.
Je suis pas née à Perpignan.
Oui. Alors, voilà, pour que vous imaginiez quel genre d'écriture propose l'auteur. Ce roman qui s'appelle Le Mystère Sherlock a eu un prix Orange du Livre et a été dans la sélection Sésame Prix Littéraire Inter. En septembre 2014, deux ans après, il a été écrit en 2012. Son roman La Fin du Monde a du retard. Que Héloïse m'a vendu il y a quelques temps en me disant il faut à tout prix que tu le lises, eh bien, a eu le gros prix de la littérature grolandaise au Festival international du film grolandais de Toulouse. Et c'est alors qu'il rejoint l'équipe des auteurs de sketch de l'émission Made in Groland sur Canal. Donc voilà, vous imaginez un peu l'esprit de cet écrivain qui est par ailleurs professeur de littérature et d'art à Montpellier. À 7. Alors l'histoire de ce livre, 10 universitaires holmésiens, c'est-à-dire donc des spécialistes de Sherlock Holmes, qui sont réunis dans un hôtel suisse pour un colloque, un hôtel qui s'appelle Baker Street, qui est situé dans la commune suisse où Arthur Conan Doyle a fait mourir Sherlock Holmes dans les chutes de Reichenbach. Un colloque à l'issue duquel le meilleur d'entre eux sera désigné pour occuper la première chaire d'holmésologie de la Sorbonne. Alors le problème, c'est qu'une avalanche va couper cet hôtel du monde pendant 3 jours, et lorsque les pompiers vont rouvrir les portes, c'est le début du roman, lorsqu'ils ouvrent les portes, ils vont rentrer dans un véritable tombeau, puisqu'on retrouve les 10 holmésiens assassinés, alignés dans la chambre froide. Arrive alors le commissaire Lestrade, pour ceux qui connaissent Sherlock Holmes, qui va mener l'enquête pour résoudre cette énigme. Alors il va pouvoir se rendre compte des événements passés en se procurant les écrits d'une journaliste présente pendant ces 3 jours, qui était déguisée en serveuse car elle écrivait un article sur les Holmésiens. Et donc on va suivre tout le long du livre les écrits de cette journaliste, tantôt racontés sous forme de lettres, tantôt racontés sous forme d'histoire, sous forme de post-it. Il y a différents styles pour raconter cette histoire qui est divisée en 3 chapitres qui sont les 3 jours pendant lesquels ils ont été enfermés, ces pauvres holmésiens. Alors, il s'agit un peu d'un roman hommage à Agatha Christie, bien sûr, à Arthur Conan Doyle, au roman policier anglais dont l'auteur reprend un peu toutes les figures traditionnelles, le mystère des chambres closes, les morts en cascade, la figure du détective, la résolution à la dernière page du roman, car ça reste un roman policier. Mais c'est surtout, vous l'avez compris, extrêmement drôle et décalé. Alors, les personnages, le professeur qui accueille les universitaires pour choisir le meilleur d'entre eux s'appelle le professeur Bobo. Bobo qu'on essaye de mettre à la porte de la Sorbonne car il est atteint d'Alzheimer, très âgé, complètement dépassé. Alors lui accepte de prendre sa retraite si on crée une chaire d'holmésologie parce qu'il est fan de Sherlock Holmes. Donc à la Sorbonne, ils disent d'accord, pas de souci, vas-y. Alors c'est pour ça qu'il fait le colloque. Il a plus sa tête, alors il écrit des mots-clés sur des post-it pour savoir quoi dire ou pour se rappeler des personnages à qui il doit parler. Bien sûr, une fois qu'il a les post-it, il sort n'importe quand des histoires qui n'ont aucun rapport les unes avec les autres. Alors les 10 universitaires qui essayent un peu d'être faillots pour réussir à avoir le poste, ils répondent quand même à ce professeur qui est complètement hors du sujet. Parmi les universitaires, alors il y a la pin-up refaite qui attire toutes les convoitises. À côté d'elle, il y a la nymphomane pratiquante catholique qui est enceinte, qui est jalouse de la pin-up. Le professeur schizophrène qui entend Holmes lui parler et qui s'injecte pour faire comme Holmes de la cocaïne quotidiennement. Il y a le docteur brillant, cynique, adepte des petites phrases assassines, du sourire Bobby Smile, du brushing, du bronzage. Le professeur qui a un potentiel, suivant l'auteur, de séduction digne des mollusques viscéroconques du Mozambique, etc., etc. Donc c'est des personnages complètement décalés, comme on est sur roman, on peut parler de cinquième degré, tandis que l'histoire, elle continue quand même d'avancer. et chacun de ces Olmésiens doit apporter une information capitale pour essayer d'avoir les faveurs du professeur Bobo. Donc du coup, voilà, est-ce que Sherlock Holmes est une histoire amoureuse, alors qu'il n'y en a aucune qui est citée dans les livres, donc il y en a un qui sort une histoire, il y a des histoires par rapport à Luc Leblanc, etc., etc. Chacun essaye de sortir une information pour réussir à avoir le poste. Et c'est très drôle, et d'un côté, c'est très renseigné comme livre aussi, parce qu'il nous parle de toutes les adaptations qu'ont fait les gens de Sherlock Holmes. Il y a un abécédaire aussi à des moments, il met F comme femme. Sherlock Holmes était misogyne, etc. Sauf dans ce livre, à cette page, il donne des informations. Sherlock Holmes a pu tour à tour être ta-ta-ta-ta-ta. Il cite d'ailleurs l'autre livre que je vous présentais tout à l'heure. Voilà, il joue avec les clichés de la littérature policière afin de déstabiliser un peu le lecteur dans ses attentes et en fait l'amener à s'interroger sur le vrai, le faux de l'enquête. Et c'est ce qu'on disait en début d'émission, il met en avant le mythe du personnage qui échappe à son auteur d'origine pour vivre finalement une vraie vie autonome dans de multiples adaptations. Je vous lis un petit passage.
Allez, ouais.
Alors, donc c'est le professeur Manolete, donc c'est la femme enceinte catholique qui est un peu jalouse de sa comparse, qui écrit quand quelque chose se passe mal, elle écrit à son curé, voilà les événements pour lui raconter un peu comment elle les vit. Tiraillé entre une piété farouche et un tempérament, donc ça c'est une fiche profil, donc c'est pas la lettre, c'est comment la journaliste voit ce personnage. Tiraillée entre une piété farouche et un tempérament bilieux, Dolores Manolete est à la fois chrétienne, ce que Dark Vador est à la force Jedi, un serviteur fidèle mais un chouïa tourmenté. Depuis des mois, rongée par une haine sauvage, Dolores penche du côté obscur. En elle bout une envie de meurtre à l'état brut dont on ne trouve guère d'équivalent que chez la hyène hypoglycémique ou le supporter de football à qui un arbitre coprophage enfanté par une péripatéticienne a volé un pénalty. L'objet de ce douloureux tourment intime, sa collègue, la sulfureuse Eva von Gruber. Certains jours, l'évocation fantasmée d'une petite séance de torture de bimbo avant mise à mort sacrificielle lui fait frôler l'extase mystique. Dolores a pris la révolution poitrinière d'Eva en pleine figure, tel un puissant airbag déclenché par surprise, et elle ne s'en est pas remise, car jusqu'à l'arrivée d'Eva sur le marché, c'était Dolores qui occupait le créneau activité extra-conjugale. Voilà, donc c'est extrêmement bien écrit, il sort des mots comme super bon, c'est super chouette. Voilà, c'est vraiment.
Ça passe bien,
c'est une écriture contemporaine 20 sur 20. Voilà, pour l'histoire, pour l'écriture, extrêmement drôle.
Utilisé à prendre 8e degré par contre. Hein.
À certains moments, parce que voilà, on s'attend pas à un roman policier où voilà, il part un peu dans tous les sens. Mais il y a une vraie intrigue policière quand même. Excellent, Jean-Marc.
Et du coup, il y était, le professeur Bobo, dans l'hôtel ?
Il y était dans l'hôtel.
Il y avait qui d'autre ?
Mais il y avait les 10 universitaires, ouais. Et la serveuse qui est en fait une journaliste.
Et le professeur Bobo. Et
le professeur c'est Bobo, tout. C'est tout.
Et c'est qui alors qui a commis les crimes ?
Ah ben, je le dis pas.
On le sait ou pas dans le livre ?
On le sait à la dernière page.
Et tu t'en doutais ou pas ?
Pas du tout.
C'est vrai ?
Oui.
Ah, ça a l'air chouette.
Pas du tout. Alors,
c'est Bobo.
C'est, ouais. Pourquoi pas, hein.
C'est très drôle parce qu'ils entendent un appel de détresse de quelqu'un qui dit on est tous morts, il reste que moi, venez vite nous aider. Donc les pompiers arrivent avec un chasse-neige, ils défoncent la porte et là ils se rendent compte que la personne qui les a appelés était derrière la porte. Je dis, ah mais mince, il n'y a plus personne. Donc c'est vraiment, c'est rocambolesque, c'est très drôle.
Allez. C'est pas du Shining, quoi.
Non, mais ça fait plaisir de lire des livres comme ça, un peu, qui sortent de l'ordinaire, qui sont drôles et très intelligents. Mmh. Valérie.
C'est vrai. Alors, moi, c'est pas drôle, c'est pas rocambolesque, mais c'est très intelligent.
Ben, c'est bon.
On va rester chez Sherlock Holmes, en fait. Et je voulais que tu me mettes la main.
C'était le sujet,
Tu devais.
La main.
Il y avait Sherlock Holmes et il y avait aussi Arsène Lupin, normalement. Non, tu devais me mettre la musique d'Enola Gay d'Orchestre Aldac Manœuvre.
Ah oui, mais comme tu me l'as dit, il y a exactement 28 minutes, j'ai pas eu le temps.
C'est pas grave. Vous avez toujours pensé que Sherlock Holmes était le meilleur détective du monde et surtout le seul, l'unique. C'est donc que vous ignoriez l'existence de sa sœur. Alors, qui connaît sa sœur ?
Alors, sa petite fille, c'est Charlotte. Sa sœur, c'est
Maria
Holmes.
Enola Holmes. En fait, Enola Holmes est un personnage totalement créé de toutes pièces par Nancy Springer, qui est une auteure américaine et qui détourne un personnage anglais. Oh my God. Et ça m'a fait bizarre. Nancy, elle est spécialiste du détournement de personnages. Elle est l'auteure de romans qui racontent, entre autres, les exploits donc d'Enola Holmes, dont je vais vous parler, qui est la sœur du grand Sherlock Holmes. Mais elle avait aussi écrit l'histoire de Rowan Hood, qui est la fille de Robin des Bois. Elle avait aussi écrit deux romans inspirés de l'épopée du roi Arthur sur Morgane. Voilà. Donc, oui, Mycroft et Sherlock Holmes, bien que plus de 20 ans l'aîné de Enola, ont dû en perdre leur monocle à l'annonce de l'arrivée dans le manoir de Ferndale de leur petite sœur Enola. Enola, donc, si on le lit à l'envers, c'est le mot alone, qui veut dire seul en anglais, enfin, traduit en français. Donc, elle est orpheline de père à l'âge de 4 ans, et elle et sa mère, donc, ont eu une relation aimable et consensuelle, j'allais dire. Elles habitaient dans le même manoir, mais sa mère, intentionnellement, a toujours encouragé sa fille à vivre de façon indépendante. Voilà qu'arrive donc le jour de ses 14 ans à Enola, et sa mère disparaît en laissant derrière elle bon, les cadeaux pour son anniversaire, dont un superbe livre codé, et aucune trace de sa mère, qu'est-ce qu'elle est devenue, où est-ce qu'elle est partie. Et débarquent de Londres ces deux frangins, donc Mycroft et Sherlock Holmes, plus guindés que jamais, et qui décident donc de confier leur petite sœur à un pensionnat, car oui, à l'arrivée au manoir, les frères Holmes découvrent une petite sœur qui se tamponne le coquillard des convenances que les jeunes filles anglaises du 19e siècle devaient respecter. Donc la jeune fille, eh ben, à son tour, elle disparaît aussi, parce qu'elle est bien décidée à échapper à la pension et à retrouver sa mère, à comprendre pourquoi sa mère était partie, pourquoi elle avait quitté le manoir le jour même de son anniversaire. Et dans sa fuite, en fait, elle va être mise en face de la disparition d'une autre personne, un petit lord de 12 ans. Et c'est là où vraiment le livre prend tout son sens. La suite, ça va être très mouvementé, ça va être souvent cocasse, ça va être souvent dur, puisque elle va vraiment enquêter une enquête digne de son grand frère. Alors Sherlock Holmes, il n'a pas les projecteurs braqués sur lui dans le livre. Par contre, il est en semi-ombre. On le croise plus. C'est une réécriture un peu de Sherlock Holmes, mais c'est vraiment l'histoire d'Enola. Sherlock Holmes, il apparaît fidèle à ce qu'il est. Alors, le côté misogyne, le côté... oups, j'en ai tombé mon monocle. Et il voudrait que sa petite sœur soit vraiment quelqu'un de pareil à ce qu'une dame de l'époque devait avoir comme éducation. Mais ça, c'est tout loupé. Et en fait, Enola...
C'est quelle époque, rappelle-nous
Début 1900. 19e. Non, pardon. L'histoire. 19e. Ouais, vraiment le Londres. En fait, elle quitte le manoir pour essayer d'aller vers Londres parce qu'elle s'imagine Londres comme étant le centre névralgique pour pouvoir retrouver sa mère. Et petit à petit, puis il y a l'autre disparition sur laquelle elle enquête aussi. Et elle essaye aussi donc de retrouver sa mère, de résoudre l'enquête et aussi de savoir pourquoi est-ce qu'elle se sent mal à l'aise. Elle a toujours eu l'impression que ses frères ne l'aimaient pas parce qu'elle était arrivée 20 ans plus tard. Et puis c'était l'enfant du scandale, de la honte, parce que née tardivement, sa mère avait 50 ans et dans la bonne société anglaise, c'était inadmissible de tomber enceinte à cet âge-là. Jaloux qu'elle s'envoie encore à l'air à 50 piges, certainement.
C'était surtout pas possible à cette époque, mais bon.
Pourquoi ?
À 50 ans à cette époque, début 19e ?
Elle habitait dans un manoir.
Déjà, il mourait à 40 ans. Alors.
Non, c'était... Voilà, donc dans le livre...
La reine d'Angleterre.
Sauf elle.
Après, c'est vrai que Mycroft et Holmes ne sont jamais décrits comme des personnages aimants et pourvus de sentiments, en fait. Enfin,
peut-être pas.
Du coup, c'est vrai que...
Là, ça donne envie de lire le tome 2, le tome 3, le tome 4 et le tome 5, si Ludo et Nico arrêtent de faire des apartés. Et,
non, je pose de vraies questions avec Nico.
Ouais, je ne veux même pas les entendre.
On pourrait faire une interview téléphonique d'un gynéco pour savoir.
Faudrait.
Si au 19e siècle, début 19e siècle,
des enfants à 50 ans. Il y a toujours des exceptions aussi.
Oui.
Voilà. Donc là, ça donne envie de continuer la lecture donc du livre d'Enola.
Ah si, elle est née au début du 19e peut-être. Je sais pas.
Faudrait demander à Michel Drucker, il était là. Ouais. Et donc voilà, il y a plusieurs tomes et la suite, on a envie de la lire parce qu'on pense qu'il va y avoir des rapprochements avec Sherlock Holmes, justement, d'Enola. C'est une fille qui est hyper attachante. On a envie de suivre ses aventures. On est dans un Londres qui est pas rose du tout. C'est bruyant, c'est puant, c'est malodorant. C'est vraiment
comme
l'époque.
Paris au 19e.
C'est marqué à partir de 12 ans. Oui. À partir de 12 ans, c'est accessible. Par contre, il y a des moments qui sont assez durs. À un moment donné, Enola, elle se fait enlever. C'est assez violent, mais
t'as
se faire enlever. Alors, j'ai pas flippé, mais je me dis que si je l'avais lu à l'âge de 12 ans, ça m'aurait un peu maintenu les yeux ouverts quelques heures avant de dormir. Mmh. Voilà. Mais c'est à lire et je pense que c'est une bonne porte d'entrée de nouveau pour s'intéresser à Sherlock. Ouais, ça donne très envie.
Super. Allez, oui, il nous reste très peu de temps. On accélère, Héloïse.
Alors, je vais vous parler brièvement d'une collection que j'adore aux éditions Les Moutons Électriques, qui sont basées à Montélimar. Donc
très bon nom.
Petite maison d'édition. Et donc, ils font un travail absolument remarquable pour l'histoire de la littérature dans une collection qui s'appelle La Bibliothèque Rouge. Ils éditent en fait des biographies fictives de grands personnages populaires de la littérature. Donc, ça va de Frankenstein, James Bond, Miss Marple, Dracula, etc. Et donc, évidemment, nos deux sujets de la journée de l'émission Arsène Lupin et Sherlock Holmes en font partie. Et donc, c'est des biographies qui se rapportent à plein de choses, c'est-à-dire à l'œuvre originale, à toutes les adaptations. Et donc, c'est extrêmement complet. Il y a des images, il y a des choses comme ça. Et je pense que pour les fans et pour les gens qui s'intéressent vraiment à la littérature, c'est extrêmement intéressant.
Pour les Olmésiens.
Pour les Olmésiens et les Lupiniens.
Et les Lupiniens.
Oh, c'est moche comme moi, ça.
Après, qu'est-ce qui te dérange dans le Lupinien ?
Je sais pas ce que
je ne sais pas. J'aimerais savoir. Je trouve ça joli, moi.
Ah ouais, je trouve que ça sonne.
C'est un peu vulgaire, tu trouves ?
C'est beau. Enfin, je sais pas.
Moi, je trouve ça imagé.
C'est imagé, oui, exactement.
Ouais. Je vois d'un mauvais œil. Mon œil borgne.
On en parle.
Comme Pangloss. Comme Pangloss. Je sais pas si tu as lu. Non, Voltaire, non, ça dit rien.
Jamais. Voltaire.
C'est pas grave. Bah, c'est Candide. Pangloss, c'est le borgne.
J'ai pas lu Candide. Je lisais Arsène Lupin, moi, à l'école.
Ah, très bien. Pardon, Héloïse.
Non, moi, c'est pas grave. C'est pas grave.
Faut t'imposer, hein, sinon. Ça...
Oui, oui.
C'est que ce n'est pas mon genre.
Oui, mais si, parce que tu dis des choses intéressantes.
Et donc, on en parlait tout à l'heure, mais c'est vrai que quand on lit ces ouvrages-là, c'est très perturbant, parce qu'on a l'impression qu'ils ont réellement existé, ces personnages-là. Et en fait, je pense qu'ils ont réellement existé parce qu'ils ont pris tellement de matière. Non, mais attends, laisse-moi m'expliquer.
Ouh, ça va loin là. Ça
c'est
y
la théorie.
Aurais-tu pris la drogue de Sherlock ?
Oui, aïe, aïe, aïe. Alors, j'attendais pas ça dans cette émission. Hein. Que quelqu'un me dise ça.
C'est une révélation.
Alors, ça me fait un peu flipper. On fait beaucoup de suppositions sur les zones floues des romans, etc., sur leur vie. On suppose plein de choses. On a des thèses, etc., sur ça. Il y a plein d'adaptations, il y a plein de versions, etc. Donc finalement, au fur et à mesure, en fait, d'en parler et au fil des décennies, je pense que ils ont pris tellement de matière, ces personnages-là, et tu dis même par rapport à leur auteur, c'est vrai que je pense qu'ils existent, en fait, vraiment.
Dans mon livre, il y a une théorie comme quoi Arsène Lupin serait le fils caché de Sherlock Holmes. Voilà, c'est un des Olmésiens.
Ouais, mais au niveau de l'âge, ça correspond pas.
Eh ben,
c'est
il
pas
prouve
la même période.
D'accord.
Si. Mais bon, ils font un peu ce qu'ils veulent dans ce livre. C'est maison d'édition,
rappelle-nous,
c'est
coup,
les moutons électriques.
J'ai une question pour Héloïse.
Vas-y.
Non, parce que c'est hyper intéressant ta théorie, mais est-ce qu'il s'appuie sur, par exemple, des enquêtes de meurtres qui auraient vraiment existé, des choses comme ça ?
Alors non, enfin, moi, c'est purement fictif, en fait, ce que je dis. C'est pas, je dis qu'ils ils existent tellement dans l'imaginaire, dans
finalement,
notre imaginaire,
qu'ils
prennent plus forme que certains personnages.
C'est un peu des Frankenstein.
Après, effectivement, par exemple, dans la biographie de Sherlock Holmes et dans le dictionnaire de Sherlock Holmes, on s'appuie aussi sur un personnage qui a réellement existé, qui s'appelle le professeur Bell, et qui était un professeur écossais, et dont Conan Doyle s'est largement inspiré pour créer Sherlock Holmes. Mm-hmm. C'est-à-dire que c'est le premier à avoir étudié tout un tas de choses, notamment la fumée de cigares, la terre, etc., pour les crimes. Voilà.
Mais souvent, dans la littérature, ou en tout cas dans toutes ces histoires... La base, elle est souvent issue d'une observation de personnages qu'on va transformer, qu'on va appeler, mais souvent c'est lié à des gens qu'on a observés ou qui ont existé, qui portent pas le même nom, qui n'avaient pas forcément la même fonction, mais qui deviennent ces personnages-là. Dire que c'est pas sans dire qu'ils ont vraiment existé sous le nom de Sherlock Holmes. Il y a des gens derrière souvent qui incarnent ces héros ou ces personnages de la littérature.
Non, mais c'est sûr.
Oui, ils se sont peut-être inspirés après que ça
oui,
existait
souvent,
ou non.
Mais souvent, dans les histoires romancées, c'est ça. Hein, tu t'inspires de faits réels ou de gens qui ont existé, mais tu les... Et héroïses.
Tu les prends oui.
Oui, non, mais tout ça. À fait, tu les romances. Et...
Tu les héroïses.
Après,
joli.
Tu parlais de
Je pense
de
que
Conan,
ça n'existe pas, mais c'est
les
joli.
Héroïses.
Les héroïses. Tu les héloïses.
Tout à l'heure.
Ouais.
C'est-à-dire qu'il a souffert par rapport à Sherlock Holmes, il a vraiment souffert. C'est-à-dire que Conan Doyle, son auteur, quand il a fait mourir Sherlock Holmes, il a reçu des menaces de mort. Il était vraiment, il a été forcé en fait de faire renaître Sherlock Holmes parce qu'il était harcelé à longueur de temps. Enfin, il y a beaucoup de gens à l'époque en Angleterre qui pensaient que Sherlock Holmes existait vraiment et qui écrivait au 221 bis Baker Street, qui est une adresse fictive entre parenthèses. Et du coup, voilà, c'est un personnage en Angleterre particulièrement au début qui a été Pardon, oh, vas-y Ludo, excuse-moi.
Non, vas-y, c'était super intéressant. C'était très intéressant. Non, je me suis quand même tapé 290 pages
génial, ce livre,
d'un roman, j'aimerais en dire juste un mot, quoi, vu que c'est l'heure.
Pour une fois qu'il a lu un livre en anglais,
ça fait 290 pages.
Quand je vois que tout le monde a eu des BD là, je le regrette.
Oh, Héloïse et moi, on n'a pas eu une BD.
Attends, t'as vu une BD,
c'est
vrai. T'as la lecture des images,
pas
c'est
de BD,
compliqué.
Moi. Je sais pas cette année.
Donc là, on parle de Sherlock, mais d'un autre grand personnage de l'Angleterre victorienne.
Voilà, allez rapidement, hein, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Michael Dibdin, l'ultime défi de Sherlock Holmes, qui fait partie des nombreux auteurs qui ont repris Sherlock Holmes bien plus tard pour leur créer des histoires, dont beaucoup se sont cassés la figure. Selon les critiques, c'est un véritable coup de maître, etc., etc. Moi, je suis pas du tout roman policier, donc je l'ai lu, j'ai trouvé ça bien, sans plus, mais parce que c'est pas mon style d'écriture. Et Louise, tu pourras en dire un mot. C'est le docteur Watson, avant de mourir, Sherlock Holmes est déjà mort, qui raconte une affaire qui s'est déroulée, dont personne n'est au courant. Il demande à ce qu'on l'ouvre qu'en 1972, bien des années plus tard, pour savoir ce qui s'est passé. Et en fait, c'est l'ultime défi de Sherlock Holmes qui combat
Moriarty.
Jack l'Éventreur.
Alors ça vous fait pas rêver, hein, Sherlock Holmes contre Jack l'Éventreur.
Et en fait, c'est la base,
hein, c'est la première enquête qu'il a fait, Sherlock Holmes, non ?
Non, il a Conan Doyle, il a jamais écrit sur Jack l'Éventreur.
Qui alors Jack l'Éventreur qu'il avait pourchassé dans ses livres ?
Mais Jack l'Éventreur, c'est un vrai criminel,
oui,
en fait.
C'est un vrai, mais
oui,
personne.
Mais il y avait des livres dessus avec... Nico est d'accord avec moi, il secoue la tête de haut en bas.
Ouais. On dirait un peu de ça dans les voitures.
C'est pas Conan Doyle.
Non, c'est pas Sherlock Holmes. Donc voilà, moi j'ai trouvé très vite la résolution de l'affaire, en fait. Je m'en suis douté assez vite. Alors déjà, ça gâche un peu tout. Parce qu'on s'y attend, et oui, finalement, c'est bien ça.
Oui, mais après, c'est...
Donc peut-être que je suis très perspicace aussi, Louise.
On peut s'en douter même en lisant le résumé, tu vois. Je pense que le but, c'est pas la résolution de l'enquête. C'est vraiment le personnage de Sherlock, du coup. Et je pense que le but, c'est vraiment pas la résolution de l'enquête dans ce livre-là. C'est vraiment la psychologie des personnages.
Oui. C'est peut-être ça, ouais.
Voilà.
En tout cas, c'est très bien. Oui, c'est un agréable moment. C'est un vrai roman policier. Donc, je pense que ça plaira aux fans de Sherlock Holmes qui sont déçus de plus voir d'histoire de lui. Bon, c'est un roman qui est quand même sorti il y a quelques années. Hein. Je ne sais plus quand, mais c'est peut-être 2012 ou quelque chose comme ça. Donc, peut-être qu'il a été lu. Mais voilà. L'émission se termine. Nico, qui c'est qui gagne ? Arsène Lupin ou Sherlock Holmes ?
Sherlock Holmes.
Bravo à Sarah qui a gagné un autre jeu, qui a trouvé la bonne réponse qui était la BD, évidemment.
Bravo Sarah.
Donc Sarah, on va prendre contact avec toi après en message privé Facebook pour trouver
Sarah,
un moment pour que tu viennes chercher les places.
4 ou 5 personnes, voire Axel Lafond.
Voilà.
Pour venir voir Axel Lafond. Mais t'es obligé de venir d'y aller avec nous, en fait.
Ouais, c'est
entouré
ça.
Par nous tous.
Et de nous offrir la place.
Ouais. Et l'apéro.
Merci.
Une chance pour elle.
Bien sûr.
T'imagines rencontrer les chroniqueurs par le bout de la lorgnette, c'est pas rien.
Ouais, on va lui laisser le choix d'inviter un chroniqueur parmi nous.
Ouais,
voir. Ouais.
Les feignasses.
Ouais, parce qu'il me reste, deux
Sarah,
places,
alors.
On va faire ça. Voilà, c'était la dernière émission.
Sarah, si tu nous écoutes, oui.
Voilà. Donc tu as dit qui, Nico, qui gagnait ?
Sherlock Holmes,
s'il avait Sherlock Holmes.
D'accord.
Non, j'adore les deux, mais c'est vrai que Sherlock Holmes.
Moi, j'ai un penchant, parce que les British et qu'on tape sur les rosebifs sans arrêt. Là, ils vont sortir de l'Union Européenne, les pauvres.
Ouais, c'est vrai. Le Brexit.
Ils l'ont choisi, non ? Ouais.
Pour une fois, on ne tape pas sur les rosebifs, mais on les trouve géniaux, il faut quand même le dire. Quoi.
Voilà. Et vu le profil de Sarah, elle est anglaise, on la salue. Valérie.
On adore le rosebif avec des cornichons.
Non, moi, je t'avouerai qu'Arsène Lupin a ce petit côté un peu...
Franchouillard, ouais.
Oui, parce qu'il t'a séduit, ouais, aussi.
Ouais, je crois que je suis amoureuse d'Arsène Lupin.
Aïe, aïe, aïe. 2-1 pour Sherlock Holmes.
Attends, c'est un bobo, Arsène.
Pauline, on la connaît, elle est neutre, elle va voter
avec
Arsène Lupin.
Avec l'histoire de Pauline,
j'ai plutôt Sherlock, mais j'ai beaucoup aimé ma BD, mais...
Mais Sherlock me tente bien plus là.
Allez, ça ne sert à rien que je vote, Sherlock a gagné. Eh non, ça
tu peux donner ton avis quand même.
Non, je le donnerai pas.
Tant pis.
C'est comme ça. Ok.
Pas d'avis en fait.
Alors dans deux semaines, Pauline n'est pas là.
Et non.
On en profite pour saluer Jean-Paul qui nous écoute.
Et Monique. Pauline
arrive. Et Monique aussi. dans deux semaines, qu'est-ce que c'est déjà, Héloïse?
Science-fiction française.
Ah ouais, la
si
science-fiction.
Tu vas bien, ouais.
Ouais, pour Nico. On va parler de zombies. Mais quand même, quand c'est policier, t'as des zombies.
Non, mais les zombies, c'est du fantastique ou ouais.
C'est pas trop science-fiction.
Moi, j'ai un truc qui fait peur pendant 15 jours.
Ah, super. Moi, j'ai pas commencé à lire.
Et moi non plus.
Toi non plus, super. Et
déboulé.
Et en plus, exceptionnellement, le 27, je crois que c'est le 27, hein,
Emlire. Non, c'est le vendredi d'avant.
C'est quand même lire.
Mais c'est en novembre.
C'est en novembre.
D'accord, très bien.
Mais je reviens dessus. Maintenant. Voilà. Fin novembre.
Fin novembre et on fera une émission spéciale en direct de nos studios, toujours à la même heure, sur le thème de cette année qui est cinéma et littérature.
Ça va être génial.
Et aussi, on va parler d'États-Unis, du Japon, de plein de pays dans les prochaines émissions. On vous donne rendez-vous dans deux semaines. Merci à tous. Ciao.
Bisous.
Bonne semaine, tout le monde.
Au revoir.
La lecture, c'est aussi une forme de résistance.
Les écrivains ne m'intéressent que les gens qui ont un style. S'ils n'ont pas de style, ils ne m'intéressent pas.
Je me suis contenté de faire un petit rond, un cercle, une petite mèche pour donner un accent. Comme ça, j'étais certain que ce personnage, on le reconnaîtrait de dessin en dessin et de semaine en semaine.
Les histoires, il y en a plein à la rue. Plein les commissariats, plein les correctionnels, plein votre vie. Tout le monde a une histoire.
Les livres nous transforment. Je suis ce que les livres m'ont fait. Oui.
Faut jamais oublier qu'il y a un endroit de littérature où seul le style, seul les mots comptent, c'est la poésie.
On voit à travers l'écriture. Je ne sais pas ce que c'est un livre, personne ne le sait. Mais je sais quand il y en a un, quand il n'y en a pas un.